journal, Sébastien Legénie. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, un duel politique aux allures de combat de gladiateurs. Ça se passe en Ukraine. À 48 heures du second tour des présidentielles, les deux finalistes vont débattre devant 70 000 spectateurs dans un stade olympique. Nous serons sur place dans un instant. La désobéissance civile, nouvelle stratégie des ONG de défense du climat, des ONG qui appellent aujourd'hui à une action de grande ampleur, encore très mystérieuse. Dans l'actualité également, la condamnation du frère de Mohamed Merah à 30 ans de prison pour complicité d'assassinat. 8 syndicats qui appellent à une journée de grève dans les urgences parisiennes aujourd'hui. Et puis on parlera aussi d'une petite église vendéenne qui se sent oubliée de la générosité nationale et d'un concours un peu spécial. Si vous gagnez, vous serez parti, mais vous serez parmi les premiers à parler aux Martiens.
Avec Ali Badou, dans 20 minutes à 7h50, aujourd'hui le chercheur en neurosciences cognitives Albert Moukébert.
France Inter.
Et direction l'Ukraine, Sébastien, où la politique rejoint les jeux du stade.
Les Ukrainiens appelés à voter dans deux jours pour élire leur nouveau président avec un face-à-face inattendu. D'un côté, le président sortant Petro Poroshenko, plombé dans les sondages. Et de l'autre, son challenger qui caracole en tête, Volodymyr Zelensky, un humoriste qui refuse tous les codes de la politique traditionnelle, y compris les débats télévisés. Il a fini toutefois par accepter de rencontrer son adversaire, mais à ses conditions, c'est-à-dire un débat dans le plus grand stade du pays, les deux finalistes entourés chacun par des milliers de supporters bouillonnants du jamais vu. Reportage à Kiev de notre correspondant dans la région, Claude Brouillot.
À une extrémité du stade, Volodymyr Zelensky, le showman pourfendeur ironique de la corruption des politiques ukrainiens sur une scène, et à l'autre extrémité, dans le camp d'en face, sa cible, son challenger, Petro Poroshenko, sur une autre scène, obligé d'accepter cette scénographie, selon son porte-parole Oleg Medvedev.
On a l'impression effectivement qu'il nous impose ces conditions, mais nous avons réussi à imposer un débat à Zelensky qui n'en voulait pas, et nous savons qu'il le prépare très sérieusement.
Un cordon de sécurité va séparer les deux camps de supporters, mais les risques de provocation sont réels pour Alexander Vigliano, membre de l'équipe Zelensky.
Je suis un peu énervé parce que la première question qui me préoccupe, c'est la question de sécurité. Il y aura aussi des représentants d'un autre camp. L'essentiel, c'est d'éviter les provocations par des éléments qu'il y aura forcément sur ce stade.
Zelensky a invité 15 000 sympathisants à s'inscrire via Internet pour venir le soutenir. Le camp Poroshenko lui espère que son champion va imposer son expérience politique par chaos et convaincre les 20% d'indécis à le rejoindre in extremis dans les urnes dimanche. Kiev, Claude Brouillot, France Inter.
Poroshenko, le président sortant, est crédité de 27% des voix, alors que son rival Zelensky arriverait largement en tête avec 73% des suffrages. Début du scrutin dimanche matin. En bref, toujours à l'étranger, un 9e vendredi de mobilisation aujourd'hui en Algérie. Les manifestants ont obtenu en début de semaine la démission du président du Conseil constitutionnel, mais ils demandent maintenant celle du président de la République par intérim et celle du Premier ministre. Les défenseurs du climat passent à la vitesse supérieure. Une opération massive de désobéissance civile est prévue aujourd'hui en Ile-de-France. Désobéir car les marches pour le climat ne suffisent plus selon les ONG. Le lieu est tenu secret mais une action est donc organisée aujourd'hui. Blocage d'entreprises, de carrefours routiers ou d'une administration. Le mystère est encore secret, reste encore entier. On connaît juste le nom de cette action. Bloquons les pollueurs. À l'initiative de Greenpeace ou des Amis de la Terre. Des cars ont été affrétés de Marseille, Bordeaux, Nantes ou Strasbourg avec des centaines de citoyens inscrits sur Facebook et prêts à partir en prison s'il le faut. Célia Kiré.
Pour participer à cette action, il y avait une condition, être formé à la désobéissance civile non violente, à visage découvert, précaution indispensable pour Clément Sénéchal de Greenpeace.
Là, ce qui est un peu nouveau pour nous, c'est de faire de la désobéissance civile de masse. Et donc de masse avec beaucoup de gens. Et une désobéissance civile qui soit ouverte, donc avec des gens qui viennent et qu'on ne connaît pas forcément au début du processus. Déjà, ça nous donne la responsabilité, effectivement, de les former à la non-violence, d'organiser l'action, les différents scénarios, etc.
Et ces militants, comme Cécile Marchand, des Amis de la Terre, informent également les participants des risques juridiques de leur action.
Lors de l'inscription, on demande aux gens le niveau d'implication qu'ils veulent avoir et les risques juridiques qu'ils veulent prendre. Et très clairement, on est impressionné du nombre de personnes qui se disent prêtes à aller en garde à vue et à être en procès après cette action-là.
Cette détermination détermination n'étonne pas d'ailleurs Pauline Boyer de l'association Action non violente COP21, car les marches ou les grèves pour le climat ne semblent pas très efficaces selon elle.
De nombreux droits ont été acquis grâce à la désobéissance civile, comme le droit à l'avortement, le droit de vote des femmes. Dans l'histoire, on a vu que c'était une arme puissante. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont allées marcher dans la rue et qui se demandent maintenant, mais concrètement, qu'est-ce que je fais pour faire changer le système ?
Depuis le début de cette vague de désobéissance, une trentaine de militants ont déjà été placés en garde à vue.
Célia Kyré, un mot d'environnement encore avec cette décision du Parlement européen hier d'imposer une réduction de 30% des émissions de dioxyde de carbone, le CO2, pour les camions et les autocars neufs d'ici à 2030. Et puis, à noter aussi deux autres mouvements de protestation. Aujourd'hui, la grogne des urgentistes avec une grève de tous les personnels à l'appel de 8 syndicats. Grève pour dénoncer les sous-effectifs et les agressions de personnel. Et l'appel également de syndicats de policiers et des rassemblements silencieux dans toute la France pour alerter sur les suicides dans la profession. Partons maintenant pour La Roche-sur-Yon en Vendée, agacée devant les millions donnés pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Presque 1 milliard d'euros en effet à ce jour. Dernier donateur en date, le Comité international olympique s'est engagé à hauteur de 500 000 euros. Mais en face de cette générosité hors norme, que fait-on pour nos petites églises dont beaucoup sont aussi fragilisées? Exemple avec l'église Saint-Louis de La Roche-sur-Yon, le monument le plus visité de la ville, mais qui n'a récolté que 1 000 euros en 6 mois. Sur place, les fidèles font la grimace. Le reportage de Marc Bertrand de France Bleu La Rochelle.
Le conseil départemental de Vendée, plusieurs communes, les Herbiers, les Sables-d'Olonne, même le Puy du Fou va donner 300 000 euros pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Quand ils entendent ça, Maryse et les autres bénévoles de l'église Saint-Louis sont estomaqués.
Ma collègue m'a dit, mais tu te rends compte, le Puy du Fou, il donne à Notre-Dame de Paris. Mais elle dit, mais c'est chez nous qu'il devrait donner aussi. Ça interpelle pas mal de personnes là-dessus. Les gens, ils comprennent pas, oui.
Ici, l'appel aux dons est lancé depuis 6 mois. C'est la ville qui finance la plus grande part des rénovations, mais ça ne suffit pas, vu l'ampleur des travaux.
Vous savez qu'à voir dans la chapelle de la Vierge, les plâtres tombent. Là, ça tombait aussi dans les filets, là, les plafonds. Tous les plafonds, ça tombe. C'est quand même classé monument historique.
À Saint-Louis, il y a près de 1000 personnes à la messe tous les dimanches, mais comme l'explique ce prêtre...
Saint-Louis n'a pas brûlé. Il faut parler à ceux qui veulent faire un don à Notre-Dame, de voir aussi la misère à leur porte. Nous aussi, on a besoin de sous, il faut le dire, on a besoin de sous.
Mais pour l'instant, l'appel au don n'a récolté que 1175 euros seulement. À la fin de la messe, quand on demande à une paroissienne si elle va donner.
C'est possible, pas sûr. C'est pas sûr que je donne. Je prie par contre. Ça oui.
Marc Bertrand de France Bleu La Rochelle. À suivre dans l'actualité judiciaire. Aujourd'hui, le jugement dans l'affaire Denis Baupin. Le tribunal correctionnel de Paris rend son jugement cet après-midi dans ce procès en diffamation que l'ancien député a intenté à France Inter et Mediapart. Le parquet a demandé la relaxe. On appelle cela la modeste fashion, la mode modeste, ou comment les femmes musulmanes tentent d'associer voile islamique et conseil de beauté. La modeste fashion sera au cœur cette année de la 36e rencontre des musulmans de France, qu'on appelait avant le salon de l'UOIF. Cette tendance progresse depuis les années 2000. Une mode moderne, féminine, mais pudique et donc toujours voilée. Un mouvement initié notamment par un nouveau genre de blogueuses, les hijabistas, à l'audience de plus en plus large. Julie Pietri.
Bonjour, bienvenue sur ma chaîne.
Elles s'appellent Asma, Salima, Randa et délivrent leurs conseils sur internet pour porter le voile ou le turban, comment le nouer, comment le choisir, au milieu de 1000 autres conseils beauté.
Moi je l'ai pris en blanc, je trouvais qu'en blanc ça faisait joli. Regardez, vous avez un tombé qui va vraiment venir cacher le cou derrière.
Surnommée hijabista, elle prône une mode dite modeste, la modeste fashion mise en avant cette année par la foire du Bourget. Le message marketing est limpide, le port du voile est moderne parce que coloré est tendance, féminité, mais modestie et pudeur, c'est le concept. Iman Mestaoui a lancé la marque Barcha il y a 4 ans avec turbans et kimonos.
C'est vrai que nos pièces n'étaient pas forcément hyper conservatrices. Parce que même au niveau de nos shootings, on va montrer la racine des cheveux, on montre les chevilles, on montre souvent un peu les poignets et tout ça, c'est pas forcément autorisé. Enfin, après, c'est libre d'interprétation et nous, on estime qu'aujourd'hui, les codes sont beaucoup plus souples. puis la femme est libre de porter le foulard comme elle le souhaite et en fonction de la tradition en fait, du pays.
Cette mode s'appuie sur l'idée qu'il n'existe pas ce qu'il faut aujourd'hui pour les femmes musulmanes dans les sociétés dites sécularisées. Quand ses promoteurs voient dans ses produits une modernisation, ses détracteurs parlent de trompe-l'œil avec un port du hijab qui reste au final conforme aux exigences des plus conservateurs.
Julie Pietri, début de la 36e rencontre des musulmans de France cet après-midi. Elle se termine lundi prochain.
Et on termine, Sébastien, avec un concours un peu particulier, un concours de messages adressés aux Martiens.
À l'origine de cette histoire, il y a la volonté de l'Agence spatiale européenne d'envoyer un robot sur Mars en 2021. Et pour vérifier si la mémoire de l'appareil est capable de transporter un fichier audio de la Terre à la planète rouge, eh bien l'agence appelle les habitants du monde entier à lui envoyer un message de 30 secondes et s'engage à diffuser un de ces messages sur Mars. En France, une centaine de personnes ont tenté leur chance et Benjamin Boucriche a écouté un petit florilège.
Chaque participant a une stratégie différente pour gagner ce concours. Laurent a mis un micro devant Tom, son fils de 6 mois. Il écrit à côté « C'est un message universel, un beau symbole de l'humanité ». Justin, 8 ans, se voit lui comme le pilote d'un vaisseau spatial écologiste.
Moi, capitaine Justin, je lutte contre le dérèglement du climat pour que nos océans bleus ne deviennent pas les déserts rouges de Mars.
Laura, elle, veut faire vibrer la sensibilité artistique du jury.
Mon cœur bat et Mars entend ma voix. Je m'appelle Laura et je m'adresse à toi. Mars, je suis en émoi. Une nouvelle aventure fait battre toutes les conjonctures.
Il y en a donc pour tous les goûts et cela plaît beaucoup à l'astronaute Jean-François Clairvoy qui est allé 3 fois dans l'espace.
Tous ces messages qu'on vient d'entendre, ce sont des messages représentant l'humanité. Juste le rire qui n'a pas de langue, je trouve que ce message d'un bébé qui rit comme premier message, c'est vraiment super.
Pour participer, enregistrez votre voix pendant 30 secondes et envoyez le fichier sur le site internet mars.vesmir.cz.
Benjamin Boucriche, et vous avez donc jusqu'au 20 mai, Nicolas, pour babiller pour les Martiens.
Merci Sébastien Legénie.